Merci d'écouter RFI, les 15h à Paris, 14h temps universel. Le journal Charlotte Hydrac. Bonjour Charlotte.
Bonjour Chantal Leroux, bonjour à toutes et à tous. L'Europe affiche son soutien à l'Ukraine, 3 ans jour pour jour après le début de la guerre. La Russie, elle affirme qu'elle ne cessera les combats que quand elle aura obtenu ce qu'elle veut des négociations. Le président Emmanuel Macron est à Washington pour en parler avec le président Trump. À suivre aussi une conférence de dialogue national en Syrie, 2 mois et demi après la chute de Bachar el-Assad, une étape de la transition. Le procès hors norme de Joël Le Squarnec à Vannes, dans l'ouest de la France. Cet ancien chirurgien accusé de pédocriminalité sur près de 300 victimes. Selon son avocat, il se reconnaît responsable d'une très grande majorité des faits. Et puis des pressions, voire de l'obstruction de certains pays pour retarder les travaux du GIEC, le groupe d'experts sur le changement climatique réuni en Chine. Ce n'est pas seulement le destin de l'Ukraine qui est en jeu, c'est le destin de l'Europe. Déclaration d'Ursula von der Leyen tout à l'heure, la présidente de la Commission de l'Union européenne, en déplacement à Kiev avec une douzaine de dirigeants occidentaux en ce 24 février qui marque donc le 3e anniversaire du début de l'invasion russe. Soutien affiché de l'UE et notamment des pays baltes qui craignent d'être les prochaines cibles de Moscou. Reportage de Lituanien solidaire à Vilnius, Marielle Vituro.
Venir en aide à l'Ukraine est une seconde nature pour les Lituaniens. Début février, un grand appel aux dons a été lancé pour acheter des drones. Jurgita s'est emmitouflé dans un drapeau ukrainien bleu et jaune pour assister dimanche soir au concert donné pour encourager les dons.
Je m'occupe d'une famille ukrainienne. Maintenant, ils ont un logement, la mère, un travail, les enfants vont à l'école, mais on continue toujours de les soutenir.
Verser de l'argent n'est pas l'unique solution. Depuis le début de la guerre, les Lituaniens ont tissé plus de 80 000 mètres carrés de filets de camouflage. Onutė, retraitée, tricote des chaussettes et fabrique des bougies pour les tranchées.
Nous aussi, nous avons été occupés. Nous avons subi l'attaque du 13 janvier qui a fait des morts. Nous avons manifesté pour notre liberté. Aider était une évidence. Je suis infirmière et le 13 janvier 1991, j'étais justement de garde à l'hôpital.
L'État lituanien se mobilise aussi. En janvier, le ministère de la Défense a envoyé des camions et des viseurs thermiques. Depuis le début de la guerre, la Lituanie a donné plus d'1 milliard d'euros à Kiev, soit 1,8% de son PIB. Pour la classe politique balte, il n'y a pas d'autre chemin pour repousser la menace russe le plus loin possible. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Et le président français, le président Emmanuel Macron, lui est à Washington aujourd'hui pour un entretien avec Donald Trump prévu tout à l'heure pour tenter de convaincre son homologue américain de ne pas tout céder à Vladimir Poutine. De son côté, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a prévenu ce matin sur la position de son pays dans des pourparlers.
Le président a clairement dit que nous sommes prêts à négocier avec l'Ukraine et l'Europe, avec tous les représentants qui, de bonne foi, voudraient aider à parvenir à la paix. Mais nous ne cesserons les hostilités que lorsque ces négociations auront donné un résultat ferme et durable qui convient à la Fédération de Russie. Et bien sûr, les réalités sur le terrain doivent être prises en compte.
Le chef de la diplomatie russe, la Russie qui a condamné aussi une attaque qualifiée de terroriste ce matin au consulat de Marseille, dans le sud de la France, visé par des jets de bouteilles suivis de détonations. Il n'y a eu ni dégâts ni blessés. La police a ouvert une enquête. L'Union européenne suspend certaines sanctions imposées à la Syrie, décision actée par les chefs de la diplomatie de l'UE réunis à Bruxelles. 3 secteurs clés sont concernés. La banque, l'énergie et les transports. La Syrie où l'après-Assad se construit petit à petit. 2 mois et demi après la chute de ce régime autoritaire, une conférence de dialogue national doit s'ouvrir ce lundi à Damas. 2 jours d'échange aujourd'hui donc et demain. Les participants devraient formuler des recommandations aux nouvelles autorités. Guilhem Deltay, il s'agit d'une étape de la transition qui était annoncée.
Oui, Charlotte, une transition sans précipitation, mais qui se met résolument en place. Voilà l'équation pour les nouvelles autorités syriennes. Aucun calendrier n'a été annoncé, simplement une perspective donnée par le nouveau président. La transition pourrait prendre 4 ans, a déclaré Ahmed al-Shara, mais ce processus doit tout de même donner des gages d'avancée. Cette conférence de dialogue national, censée représenter tous les Syriens de l'intérieur du pays comme de la diaspora, avait été annoncée dès le mois dernier et elle a été préparée ces deux dernières semaine par un comité qui a organisé des rencontres dans plusieurs provinces du pays. 4000 personnes y ont participé selon ce comité. Les recommandations qui seront émises par la conférence doivent ensuite servir de base pour la déclaration constitutionnelle, l'identité économique et le plan de réforme des institutions selon le comité préparatoire. Dans les prochains jours, un nouveau gouvernement devrait être formé. Cette conférence sera la première étape d'un travail continu, poursuit le comité. Mais ce processus inclusif, Charlotte, se heurte déjà à un écueil. Les invitations à cette conférence n'ont été envoyées qu'hier. Un délai trop court pour que certains Syriens vivant à l'étranger fassent le déplacement.
Et Guilhem Daïtaï, 15h06 à Paris, en France. Le ballet politique se poursuit au Salon de l'agriculture avec la visite du Premier ministre François Bayrou ce matin. Après l'attaque au couteau de Mulhouse dans l'est de la France samedi, le Premier ministre a notamment jugé inacceptable que l'Algérie ait refusé 10 fois, je cite, de reprendre l'assaillant qui était sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. En France, toujours ce nouveau procès hors norme et sordide de Joël Lescouarnec, cet ancien chirurgien accusé de violences sexuelles sur près de 300 patients, pour la plupart des enfants, à l'époque pour la plupart sous anesthésie. Selon son avocat, il se reconnaît, cet ancien médecin, responsable d'une très grande majorité des faits. Qu'attendent les victimes de ce procès, parfois 25 ans après? Témoignage de l'une d'entre elles, Amélie Lévesque.
Personnellement, ça a eu beaucoup d'impact. Je me suis séparée de mon mari, il y a eu beaucoup de choses. Pour mes enfants, ça a été très difficile. J'ai complètement changé de vie et je suis une personne un peu différente aussi. Mais je suis aussi beaucoup plus combative. La thérapie, ça aide à se connaître. Et voilà, et lui sera droit dans son box. Mais moi, je vais m'en sortir. J'ai plein de choses à lui dire, mais je veux lui dire posément, sans colère et sans pleurs. Donc pour l'instant, je réfléchis. Donc je ne peux pas vous le dire parce que moi-même, je ne sais pas encore. Ça fait partie de mes nombreuses insomnies. Aujourd'hui, pour moi, c'est le début de la fin. C'est vraiment voilà, le début d'une vraie reconstruction, en fait, où voilà, je peux mettre tout ça derrière moi. Ça a été, j'ai choisi de m'exposer depuis 2019 parce que ça m'a fait un bien fou. Et aujourd'hui, voilà, j'attends que ça s'arrête.
Amélie Lévesque avec Baptiste Coulon. Ce procès de Joël Lescouarnec est prévu pour durer 4 mois. À quand la sortie du prochain rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique? Ils sont réunis, ces experts, à partir d'aujourd'hui en Chine, notamment pour discuter du calendrier de publication de ce rapport. C'est un gros travail scientifique qui doit servir de référence pour faire le bilan de l'action climatique dans le monde, pour aiguiller les politiques. Mais d'ores et déjà, Jeanne Richard, plusieurs États tentent de retarder sa sortie.
Les chercheurs du GIEC ont des milliers d'articles scientifiques à compiler pour éclairer les décideurs du monde entier sur les dernières connaissances sur le changement climatique et les moyens d'y faire face. Pourtant, les pays n'arrivent pas à s'accorder sur la date de publication du rapport, explique la chercheuse sénégalaise Aïda Diong Nyang, l'une des vice-présidentes du GIEC.
Il y a certains pays qui ne veulent pas que ces dernières informations-là soient dans les débats au niveau des COP.
Elle l'assure, les scientifiques sont prêts à faire le travail nécessaire.
La politique s'est bien initiée dans les débats. Déjà même avant que les rapports sortent, il y a des tractations pour faire de sorte que les rapports soient retardés. Donc ça, c'est inouï et c'est dommage qu'il y a une obstruction en fait pour la science.
Stéphane Singer, militant auprès du CAN, le réseau mondial d'ONG de lutte contre le changement climatique, précise.
Certains pays essaient de faire reculer la science, l'Arabie Saoudite et la Russie en particulier. D'autres économies émergentes comme l'Inde, la Chine, la Malaisie, le Brésil, l'Afrique du Sud sont préoccupées par le fait qu'il y a une pression pour que les choses soient faites à la hâte. Mais nous considérons aussi que les préoccupations de tous les pays ne sont pas toutes sérieuses ou honnêtes.
L'Arabie Saoudite et l'Inde sont pointées du doigt, en particulier deux grands pays émetteurs de gaz à effet de serre.
Voilà la réunion dont des experts du GIEC. En ce moment, en Chine, le groupe intergouvernemental d'experts sur le changement climatique. Tout de suite, on vous retrouve, Caroline Achowski, pour Autour de la question. Zoom autour de la chouette aujourd'hui.